بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors mes chers frères en islam, nous rappelons que la dernière fois lorsqu'on avait abordé le thème de l'imam Mehdi chez les autres religions et principalement chez les Ahlul Kitab, on avait rappelé que les Nasara croient au retour de Isa alayhi salam, mais il n'est pas précisé de manière claire dans le Injil, dans la Bible, qu'il y aurait une personne qui viendrait pour guider la Ummat avant la venue de l'Antéchrist. Par contre, les Nasara, les chrétiens, croient en la venue de l'Antéchrist, mais il n'y a rien, il n'y a pas de verset dans la Bible qui parle de la venue de l'Imam Mehdi. On avait vu que chez les Yahoud, alors par rapport à la version de la Torah, de la Torah qui existe maintenant, vous comprenez bien que si les Yahoud à la base ne croient pas en la prophétie de Jésus, ne croient pas en la prophétie de Isa alayhi salam, comprenons qu'ils ne croient pas non plus à son retour. Et comprenons que les Yahoud n'ont aucun intérêt à croire en la venue d'un homme qui apporterait l'aide à la communauté du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc la description parfaite, complète de l'imam Mehdi se trouve uniquement dans l'islam chez les musulmans. Maintenant il y a un souci. Ce n'est pas un problème, mais il y a une problématique. La différence entre une problématique et un réel problème. En arabe, on appelle ça plutôt un shubha, quelque chose de douteux. Dans certaines sources occidentales, il est mentionné la venue d'un homme chez les Arabes qui apporterait l'aide à la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces sources ne proviennent ni, apparemment, ne proviennent ni du Coran, ni de la Sunna. Et comme on vient de dire que dans la Bible, nous ne retrouvons pas directement des versets qui prouvent qu'un homme viendra chez les Arabes pour apporter la Nusrat, et chez les Yahoud, il n'y en a pas non plus. Alors comment cela se fait-il qu'une personne extérieure puisse avoir des textes en sa possession qui expliquent la venue d'un homme chez les Arabes à la fin des temps? Et cette personne, c'est ce que de nos jours les Occidentaux appellent le prophète Nostradamus, qui en aucun cas n'est un prophète. Tous ceux qui lisent l'avenir, tous ceux qui prédisent l'avenir, qu'on appelle des prophéties, ne sont pas prophètes. Il y a plein de gens qui sont capables de vous dire que demain il se passera telle chose, que dans un an il y aura telle chose qui va se passer, et que parfois la chose se réalise. Mais en aucun cas, même si on va appeler ça par rapport à la langue française, on va appeler ça c'est une prophétie, mais toute personne qui fait des prophéties n'est pas un prophète. D'accord ? Donc, la personnalité de Nostradamus est intrigante, intéressante. C'est une personne, si on a l'occasion, je ne sais pas s'il y a des livres en français, il doit y en avoir certainement, je vous invite à lire certains passages sur sa vie, et plus particulièrement sur son enfance et l'éducation qu'il a reçue de son grand-père, et cela nous éclairera un peu et nous fera réaliser certaines choses, nous fera comprendre pourquoi certaines choses annoncées par ce docteur, qui est avant tout un médecin, Nostradamus, comment cela se fait-il que certaines choses annoncées par Nostradamus se réalisent et continueront à se réaliser. Alors avant tout, on va laisser ça pour la fin, khair, inshallah. Donc pour parler de Nostradamus, c'est un homme qui a vécu au XVIe siècle. C'est un homme qui a vécu au XVIe siècle, il est donc né en France. Et donc, il a été élevé principalement par son grand-père. Et son grand-père était un commerçant de confession juive. Et c'était quelqu'un qui avait un certain savoir sur la religion juive. Alors, mais après quelques années, toute sa famille, la famille qui réside en France, ils ont quitté donc la religion juive pour se convertir au christianisme. Ils étaient devenus donc des catholiques. Alors maintenant, Nostradamus grandit et il apprend avec son grand-père particulièrement la langue latine mais également l'hébreu qui est la langue de la Torah et certaines versions de la Bible également sont écrites en hébreu. Et il apprend également l'astrologie. Nostradamus va trouver une passion pour l'astronomie. Et son grand-père, comme on vient de le dire, qui possédait des parchemins, des livres originaux sur l'islam, qu'on appelle en arabe des matbou'a, c'est-à-dire des livres qui ont été écrits à la main et qui n'ont jamais été imprimés. Son grand-père avait en sa possession des livres qui, jusqu'à maintenant, n'ont jamais été imprimés. Et comment est-ce qu'il a eu? C'était par héritage. On rappelle qu'on est au XVIe siècle. C'est son grand-père avait eu par héritage, à l'issue de certaines batailles, particulièrement la bataille des Tatars contre les musulmans, et entre autres la conquête de l'Irak qui a été faite à une certaine époque, où c'est un événement très connu, très raconté dans les livres d'histoire islamique, bien sûr, où la grande bibliothèque de Bagdad a été donc dévidée, a été dévalisée, et les ennemis, donc, ils ont pris tous les livres, les parchemins, les livres originaux qui, à l'époque, ne pouvaient pas être imprimés, et ils ont jeté dans les fleuves de l'Irak. Et dans le livre d'histoire, c'est écrit qu'il y avait tellement de koutoubes de livres qui ont été jetés dans ces fleuves que la couleur de l'eau est devenue bleue, la couleur de l'encre. Tellement il y avait des koutoubes qui ont été jetés. Et parmi ces livres, il y en a qui s'en sont appropriés, pour appeler ça voler, mais pour être plus correct, appropriés. Et donc, le grand-père de Nostradamus avait des livres sur l'islam, donc il possédait certains hadiths et autres choses, et donc il a transmis une partie de ce savoir à son petit-fils, donc à Nostradamus. Maintenant, Nostradamus grandit, il va faire des études de médecine. Il va faire des études de médecine et il est doué, il est extrêmement doué et il arrive à soigner les gens qui souffrent de la peste qui tuait des villages tout entiers au 15e, au 16e siècle. Et il a même un don, il a le don de trouver des remèdes, fabriquer, concocter des médicaments et donc qui, par la grâce d'Allah, qui sont efficaces et beaucoup de gens retrouvent la santé. Il a même autre chose, il arrive à soigner les gens par ce qu'on appelle imposition des mains. Mais c'est quoi imposition des mains? C'est des gens qui disent qu'ils ont eu un don et donc ils touchent une personne malade par le contact de leur peau ou de leur corps avec l'autre personne, les énergies négatives ou je ne sais pas comment ils appellent ça, les choses mauvaises quittent, la maladie quitte le corps de cette personne, la personne malade. Donc, Nostradamus trouve certaines capacité en lui et il va exploiter ses capacités jusqu'à devenir célèbre pour soigner même des maladies incurables. Donc on va aller un peu plus vite, il va faire une tournée de la France métropolitaine bien sûr, et un jour donc en 1534, Nostradamus va se marier donc à une Française qui appartenait à un rang social beaucoup plus élevé que lui. Alors maintenant, quelques années après, c'est pas précisé combien de temps après, il y a une épidémie de peste qui touche le village, ou alors la ville où Nostradamus résidait, c'est à Montpellier, résidait avec son épouse, et donc son épouse ainsi que ses deux enfants meurent de cette maladie. Alors que lui soignait des gens atteints de cette maladie, il n'a pas pu trouver le remède pour guérir son épouse et ses deux enfants. À partir de ce moment, il va y avoir un changement dans la vie de Nostradamus, qui est déjà médecin à cette époque, il va se mettre à soigner le côté spirituel des gens. Il va soigner l'âme des gens et il va abandonner la médecine. Alors donc, c'est à une époque où il y a ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Il y a des... Le roi de l'époque, la reine, envoyait des gens à la recherche de personnes qui avaient des dons ou qui prétendaient pouvoir guérir les gens et on voyait s'il ne s'agissait pas de la sorcellerie. Et à l'époque, les sorciers, les sorcières passaient sur le bûcher. À notre époque, c'est d'autres personnes qui passent sur le boucher. Il suffit de conduire dans un état où apparemment la visibilité n'est pas correcte. Donc là, on passe sur le boucher. Par contre, bon, sur Mitraïa, une masjid, c'est pas grand-chose. C'est des choses qui arrivent. C'est des balles perdues. C'est peut-être l'époque où on vit. Wallahu musta'an. Donc, Nostradamus va fuir Montpellier, va fuir différents endroits parce qu'on l'accuse maintenant de sorcellerie. Il va approfondir sa connaissance en astrologie. Et il va écrire son premier livre en 1554. Alors, on va aller un peu plus vite. Nostradamus va être connu par la reine Catherine de... Catherine de Médicis, d'accord? Dans l'histoire de France, on est quand même français, cette culture, il faut garder. Donc, la reine est séduite par les dons de... En général, c'est les femmes qui sont plus faibles de ce genre de... de dons. Quand on voit, quand on entend les grands Moïsables et là, ils soignent ou des trucs comme ça, c'est toujours les femmes qui veulent aller voir en premier que peut-être j'ai quelque chose, c'est sûr qu'il y a une manière de se faire soigner, autre chose. En général, les femmes ont plus de faiblesses que les hommes dans tout ce qui est un peu surnaturel, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et donc, Catherine de Médicis hein, va se rapprocher de Nostradamus, elle va honorer cette personne, elle va le prendre un peu plus proche d'elle, etc., etc. Mais arrivé à une certaine époque, Nostradamus va être contraint de quitter la reine et de quitter les villes connues parce qu'il est recherché pour sorcellerie. Maintenant, avant de quitter, Nostradamus demande à la reine, et là, ça va marquer un coup. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans sa renommée. Il va demander à la reine de regarder alors un endroit particulier, je ne sais pas où exactement, du corps d'un des enfants qui était présent. Et là, il va dire à la reine que cet enfant sera le futur roi de France. Et effectivement, ce sera lui le Henri IV, pas le Thierry. Ce sera lui le Henri IV, d'accord? Et donc, à partir de ce moment, Nostradamus devient vraiment quelqu'un d'extrêmement célèbre, d'extrêmement connu. Après son décès, il y a des gens qui vont se mettre à faire, le terme est exact, le tafsir, on pourrait dire, voilà, plutôt les commentaires des prédictions de Nostradamus. Il faut savoir que Nostradamus écrit toujours par prose. C'est des vers, V-E-R-S, de quatre couplets, qu'on appelle un quatrain. C'est pas 4-4-2, hein, c'est un quatrain. Vraiment, le niveau, Allah Akbar, tant en histoire, en poésie, en littérature, il vaut mieux plus nous poser des questions, on va être déçus. Donc, il écrit en quatrain. Et les prophéties de Nostradamus sont très compliquées à lire, extrêmement compliquées. Une personne, surtout avec notre niveau de langue française, c'est difficile. En fait, ce sont là des messages codés. Parce qu'il ne peut pas dire clairement ce qui va se passer, que telle époque, il y aura telle chose. Parce que là, on va l'accuser, il y aura les preuves. À cette époque, on cherchait des preuves pour accuser quelqu'un. De nos jours, vous êtes coupable et peut-être qu'on peut trouver des preuves, mais à l'origine, on est coupable. D'accord? Donc, c'est pas à la portée de tout le monde, la lecture de ces prophéties. Il y a besoin de personnes très compétentes, entre autres un docteur qui s'appelle, j'ai pas le nom français, Dovenbrenn, un truc comme ça. Donc, il va faire les commentaires des prophéties de Nostradamus et là, il va annoncer des choses que Nostradamus a prédit, on est au 15e, voire au 16e siècle, des choses qui vont se passer à leur époque, au 17e, au 18e, 18e, pardon, 19e, au 20e, jusqu'à une époque très éloignée, jusqu'à même la venue de l'imam Mehdi, jusqu'à même la venue du Masih al-Dajjal. Et parmi donc les choses qui ont été annoncées par Nostradamus, il y a la Révolution française qui en 1789, et lui il l'annonce 15e, 16e siècle, d'accord? Il a également annoncé la révolution en Russie, ça je sais pas c'est quand, également la venue d'un homme, Napoléon, la venue d'un autre, notre personnalité Hitler, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et même éventuellement une troisième, c'est-à-dire un chaos à la fin des temps qui va changer le cours de l'histoire. Et entre autres, la venue d'un homme chez les Arabes qui va redonner l'honneur aux descendants, aux gens qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a, je regardais une émission, un reportage sur Nostradamus hier, on parle d'un ouvrage de Nostradamus qui s'appelle Le Livre Perdu. On appelle ça un livre, mais ce sont des dessins, ce sont des schémas, c'est un peu comme les hiéroglyphes chez les Égyptiens, mais ils ne pouvaient pas apparemment dire explicitement ce qu'allait se passer, mais c'est par des croquis qu'il annonce certains événements qui vont avoir lieu, mais ça c'est vraiment à la fin des temps. Et dans les commentaires de cette émission, les commentaires de ces croquis, il y a à peu près une dizaine d'images, ils annoncent à une époque où il y aura un alignement des galaxies. L'image montre les galaxies qui sont alignées et apparemment c'est un phénomène qui se passe une fois tous les 26 000 ans. Et les historiens disent que la dernière fois qu'il y a eu un tel alignement, il y a eu la disparition de beaucoup d'espèces animales. Également, il annonce à une époque la venue d'un pic solaire, c'est-à-dire un moment où le soleil sera tellement fort que des créatures vont mourir, il y aura des catastrophes sur la Terre par rapport au soleil. Et donc, les scientifiques l'interprètent, enfin, scientifiques, ceux qui croient en ces prophéties, l'interprètent comme le réchauffement climatique. Il a également annoncé la venue, à la fin des temps, de trois éclipses spéciales. Un éclipse solaire qui va provoquer d'énormes catastrophes sur cette Terre. Également une éclipse, je vous dis ce que j'ai vu hier, mais je ne maîtrise pas ces termes, Vénus qui va s'aligner devant le soleil, et également une éclipse du soleil et du centre de la galaxie. Apparemment, ces trois éclipses vont provoquer un affaiblissement du champ magnétique de la Terre. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et cela va provoquer un inversement des pôles, et donc, et là c'est un peu plus proche de nous, l'effondrement de toute forme de communication. Sachant qu'il y a un inversement des pôles, l'effondrement de toute forme de communication électronique ou par satellite. Et ce qui n'est pas faux, c'est qu'à la fin des temps, lorsqu'on voit les hadiths qui parlent de Dajjal et de la lutte entre Dajjal et Isa alayhi salam, pas la lutte mais la poursuite, etc., on parle toujours de chevaux, on parle toujours de cavaliers et on parle de lance. On n'a pas le droit de dire que ce sont là des métaphores, la lance est un fusil ou autre chose, parce qu'on précise bien que Isa alayhi salam, hein, il va abattre al-Masih al-Dajjal avec une lance qui transpercera le corps de Dajjal et que les gens verront le sang couler pour que les gens voient bien que ce n'était pas un dieu mais une créature. Donc certains savants sont d'avis que certainement à la fin des temps il n'y aura plus les avancées technologiques que nous connaissons maintenant, certainement ces avancées-là vont disparaître à la fin des temps pour revenir vers un mode de vie beaucoup plus traditionnel où certainement les déplacements seront à chevaux, etc., etc. Alors, parce qu'imaginez, si on sait qu'il y a Dajjal quelque part, un pays peut envoyer une armée pour le tuer, ou alors s'il y a Imam Mehdi quelque part, il peut y avoir une armée où on peut envoyer une bombe atomique ou un missile, je ne sais quoi, pour anéantir cet endroit. Donc, comprenons bien que ces événements vont se dérouler normalement, sans que personne ne puisse les arrêter. Personne ne pourra arrêter Imam Mehdi, aucune force. Et personne ne pourra non plus arrêter Ad-Dajjal. Même l'homme le plus pieux ne pourra arrêter Dajjal, si ce n'est à la fin, lorsque le jeune homme le défiera et lorsque Isa alayhi salam va le tuer. D'accord ? Donc, c'est une ishara, c'est une hypothèse. Certainement, ce qu'il dit, peut-être, ça tient le coup, Wallahu a'lam. Et donc, certaines personnes font une relation directe entre ces prédictions de Nostradamus et le calendrier maya qui terminerait en 2012, etc., etc. Parce qu'il y a, dans les croquis dessinés par Nostradamus, on parle également d'une étoile bleue. Une étoile bleue qui va... il y aura une influence sur la Terre. Et là, certains disent que cette fameuse planète qui s'appelle Nibiru, je ne sais pas comment ça s'appelle, etc. Bref, qui va percuter la Terre, etc., etc. Mais moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. C'est des gens qui aimeraient que les prédictions de Nostradamus soient en relation avec les prédictions des Mayas, etc., etc., pour faire croire qu'à la fin des temps, éventuellement en 2012, il va se passer telle ou telle chose. Mais nous, on avait bien vu au début que personne n'est en droit de prétendre que la fin du monde aura lieu à telle ou à telle époque. Ça, c'était impossible. Parce que même le prophète alayhi salatu wassalam, même l'ange Jibril alayhi salam ne savait pas quand aura lieu la fin du monde. Donc personne n'est en droit de prétendre que la fin du monde aura lieu telle ou telle époque. Maintenant qu'il est prédit qu'il y aura certains événements, certains cataclysmes, ce n'est pas impossible, on va voir pourquoi, on n'a pas à croire, mais si les choses qu'il a prononcées, qu'il a annoncées il y a 5 ou 6 siècles se réalisent, ben, c'est quelque chose de tout à fait plausible pour les raisons qu'on va citer. Alors, la grande question, comment est-ce que Nostradamus pouvait annoncer la venue de tel ou tel événement? Alors, il avait une méthode particulière. Lorsqu'il voulait avoir des visions, il s'isolait dans une pièce et là, il prenait un récipient d'eau et je ne sais pas s'il récitait des prières ou autre chose. Et là, il était pris d'un état second, un genre de transe apparemment. Et après quelques temps, il commençait à dire des choses et donc à écrire ce qu'il voyait dans l'eau. Alors de nos jours, certainement, il y en a qui le font avec peut-être des boules de cristal ou avec je ne sais quoi. Mais ce sont là des inspirations de Shaytan. Comme Allah Ta'ala dit le Coran, illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Dans le verset Allah Ta'ala dit, et nous l'avons protégé, en parlant du ciel, contre tout diable banni, à moins que l'un d'eux parvienne à écouter et une flamme brillante alors le poursuit. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique ce qui est commenté par d'autres hadiths. Lorsqu'Allah azza wa jal prend une décision, Allah ta'ala communique la décision aux anges qui sont au septième ciel, et les anges, ils se communiquent entre eux et donc ils annoncent quelle est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les anges communiquent donc entre eux, là, on ne parle pas de fuite, il y a des shayatines qui, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, ont la possibilité de monter jusqu'au ciel, et c'est ce qu'on appelle illa manistaraqa sam'a. Hein? Ils ont la possibilité de monter jusqu'au ciel et d'écouter les informations qui sont échangées entre les anges sur les décisions, sur les événements. Et lorsque les anges voient, ils s'aperçoivent qu'il y a un shaitan qui est en train d'écouter, et là les anges, ils chassent ces shayatines avec des boules de feu. Certains savants sont d'avis que ces boules de feu sont ce que nous appelons de nos jours les étoiles filantes. Wallahu a'lam. Maintenant, il faut des hadiths qui prouvent réellement, peut-être qu'il y en a, on ne peut pas tout connaître non plus, certainement, wallahu a'lam, que s'il y a des hadiths qui prouvent que les étoiles filantes sont les boules de feu lancées par les anges contre les shayatines, alors on accepte, d'accord? Donc, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est d'avis que ces boules de feu ne tuent pas les shayatines. Ces boules de feu ne tuent pas les shayatines, mais les blessent et les chassent du ciel. Alors on pourrait se demander, un, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal laisse les shayatines monter jusqu'au ciel écouter les nouvelles? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que les anges n'ont pas le pouvoir de tuer tout simplement ces shayatines qui sont en train de prendre des nouvelles du ciel? Parce que lorsque les shayatines ont eu ces nouvelles, qu'est-ce qu'ils font de ces nouvelles? Ils retournent sur cette terre et ils vont les annoncer aux shayatines, aux devins, aux charlatans, comme on peut les appeler, les personnes qui prétendent lire dans l'avenir, qui prétendent dire l'avenir, pardon, les personnes qui prétendent savoir l'avenir, vous annoncez que telle chose va se dérouler de telle manière, ou alors pour votre problème, il faut adopter telle attitude, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les kahana en arabe, ou alors les sahir, les sorciers, hein, les gens qui disent, comme on dit là, la bonne aventure. Et ces personnes-là ont toujours existé. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une personne qui était caractéristique pour ce genre d'annonce, et cette personne avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi aussi je suis prophète et je sais quel verset, quelle sourate a été révélée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ben, quelle sourate Allah m'a révélée? Il a dit que le sourate ad-Dukh. En fait, le shaitan qui l'a apporté la nouvelle avait entendu qu'Allah azza wa jal avait révélé le sourate ad-Dukhan. Mais avant qu'il n'entende le nom de la sourate en intégralité, ce shaitan a été chassé par un ange. Ce qui fait qu'il a juste entendu « Dukh ». Le « An » il n'a pas entendu. Donc, il dit « Prophète, tu as eu le sourate « Dukh ». Et là, Prophète a prouvé sahaba que son shaitan donc, n'a pas eu la communication complète. Il a entendu juste la première syllabe et pas la deuxième syllabe. Pour qu'on comprenne que cela existait même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de nos jours, ça existe toujours. Et c'est un grand fitna. C'est une grande source de péché, de corruption, et malheureusement, beaucoup de gens finissent par croire en ces personnes qui annoncent que tel événement va avoir lieu, et même des musulmans, Wallahu musta'an, qui croient en ces gens et qui vont même voir ces personnes pour résoudre leurs problèmes, pour apporter des solutions aux maux dont ils souffrent. Si la personne est ensorcelée ou autre chose, il va voir directement ces gens-là pour les soigner, ou pire même, certains musulmans, lorsqu'ils ont des litiges avec d'autres personnes de la communauté, hein, ils vont carrément voir ces sorciers pour dire, voilà, j'ai tel problème avec telle personne, pour faire un sort, pour que la personne voit son commerce s'effondrer, ou pour que la personne soit malade, ou pour que cet homme divorce de sa femme, ou que cet homme ne puisse plus avoir de relation avec sa femme, etc., etc. Ce sont là les sorcelleries les plus répandues, et wallah musta'an, par le témoignage de beaucoup de musulmans, nous nous rendons compte que beaucoup parmi nos frères musulmans sont tombés dans ce péché qui est le shirk. Le fait d'aller voir des sorciers pour faire un sort, c'est le shirk. Celui qui meurt avec cet état, c'est une personne qui a fait le shirk. Alors la question, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal laisse ses shayatines monter au ciel? C'est la sagesse d'Allah. C'est pour éprouver les gens, sachant que ces personnes peuvent détenir une part de vérité, mais c'est une vérité qui a été volée et une vérité qui va être amplifiée, qui va être brodée, qui va être avec laquelle on va rajouter beaucoup de choses pour donner plus d'ampleur. Allah Ta'ala éprouve les gens. Qui est-ce qui va croire en ces makhlouqat, en ces créatures, et qui c'est qui va prendre en considération le fait que le bien et le mal sont dans les mains d'Allah et que Allah seul connaît ce qui va se passer demain. Tadri nafsum ma'adha taksibu rada hada. Et la problématique qu'il y a également avec ces personnes qui soignent, même si c'est des musulmans, même si c'est un molissable qui soigne. même si c'est un alim qui soigne, le côté négatif c'est quoi? C'est que supposer que les méthodes utilisées sont correctes, c'est-à-dire on n'a pas affaire à des ta'avis étranges, etc. Ce sont des versets du Coran, d'accord? Mais là aussi, le problème qui se pose, cela vient de la personne qui est soignée très souvent, hein, la confiance que le musulman doit avoir en Allah, cette confiance, elle est déviée vers cette personne. Même si c'est un mufti, même si c'est un cheikh al-hadith, si une fois, qu'Allah nous protège tous, une personne a été ensorcelée par exemple, et que cette personne a été voir un amil, comme on dit, quelqu'un qui soigne, qui a un alim ou un mufti ou autre chose, et que la personne a donné un traitement correct, avec lequel il a retrouvé, bi-idhnillah, la santé, ben malheureusement, lorsqu'il y aura une rechute ou un nouveau problème qui soit lié à la sorcellerie ou alors un problème de santé tout à fait normal, la personne craint que la personne, avant même de demander droit à Allah Azza wa Jal, elle ira immédiatement voir cette personne. Et là, c'est grave. Là, c'est un problème dans la foi de l'iman. Parce que la confiance doit être en Allah. Et lorsqu'on demande secours et l'aide, c'est à Allah. Quand on dit « Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in », cette formule qu'on répète dans chaque fatiha, c'est auprès d'Allah que nous recherchons refuge, nous recherchons donc de l'aide. Et l'autre conséquence également, c'est souvent on entre dans un cercle vicieux. Lorsqu'une personne a mis le pied dans ce genre de soins, alors malheureusement, jusqu'à sa mort, cette personne sera obstinée, elle n'aura que ça en tête. N'importe quel problème qui va lui arriver, que ce soit un problème banal, même une migraine ou même un petit souci, un accident de voiture, va immédiatement croire que quelqu'un a fait un sort, il y a eu telle chose, donc téléphone Moana, téléphone tel Moulissa pour voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une sorcellerie ou autre chose. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter d'entrer dans cet engrenage qui peut mettre notre foi, voire notre confiance en Allah en grave danger, notre prophète, alayhi salat wa sallam, c'est une petite parenthèse, nous a enseigné qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut lire matin et soir sur nous-mêmes et sur nos enfants pour être protégés. La première phase, c'est la phase de protection. On n'attend pas d'être atteint pour se faire soigner. On se protège afin de ne pas être touché. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circulait il y a quelque temps qui venait de Dailymotion. C'était une vidéo de YouTube plutôt, c'était magnifique. C'était l'histoire d'un sorcier qui s'était donc converti à l'islam, il s'appelait Daoud. C'était un sorcier qui s'était repenti. Il habitait en Arabie Saoudite en plus, il était d'origine yéménite, hein, il a fait Tawbah, il est retourné dans le droit chemin, et là il explique comment est-ce qu'il faisait de la sorcellerie, etc., etc. Et à la fin, pour être plus concis, et à la fin, il explique que quand il y avait une police spéciale qui le suivait, et donc quand avec des ulama qui coordonnaient les opérations, lorsqu'on l'a attrapé, la première question qu'il a demandé au cheikh, au alim, dans le fourgon de police, il a dit qu'il n'a pas demandé combien de temps je vais prendre, est-ce que je vais la prison ou autre chose, il a dit comment est-ce que vous m'avez trouvé. Il a dit que c'est simple avec l'écoute téléphonique, avec des caméras, on avait installé, etc. Il a dit non, mais normalement, les chayatines qui coopèrent avec moi, qui me protègent, normalement, ils m'informent s'il y a un danger. S'il y a un danger qui s'approche, ils m'informent et donc je peux quitter le lieu et aller ailleurs. Et là, le alim, il dit que lorsque nous avons quitté notre, soit le domicile, soit le poste où ils s'étaient réunis, on avait lu les doigts que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait enseigné le doigt lorsqu'on quitte, bismillahi tawakkaltu ala Allahi, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, et les doigts, on demande à Allah protection, min an avlima au udlam, etc., etc., tous ces doigts qui sont masnoun, et dit de la sorte, les shayatouines ne pouvaient pas avoir une influence sur nous, et donc les shayatouines fuyaient, ils ne pouvaient pas s'approcher de nous pour voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour cela que les chayatines ne t'ont pas transmis la nouvelle qu'on allait venir dans ton repère pour te cueillir, pour t'emprisonner. Hada. Également, il y a une autre vidéo qui est un peu plus récente, qui date de hier sur Facebook, qui est pas mal aussi. C'est une personne qui était en train de soigner quelqu'un qui était atteint de sorcellerie. Et donc, il y a un chayatan sur cette personne. Et il dit à ce chayatan, quitte le corps de cette personne et va sur le corps de tel cheikh, tel alim, dont on ne citera pas le nom. Le chayatan dit, c'est impossible. Elle dit, va sur tel alim alors, tel grand savant. Elle dit, lui ici c'est impossible. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que ça c'est des awliyaullah. C'est des gens qui sont proches d'Allah et qui lisent le Coran, qui lisent la protection. On ne peut rien contre. Et puis il a demandé, qu'est-ce qu'on doit faire pour être protégé de tous ces maux? Et là, le chayatan a dit que lire trois fois matin et soir les trois folies. Et ça, ça rejoint le hadith dans lequel un sahaba avait demandé au prophète une question similaire. Et le prophète avait conseillé à ce sahaba de lire trois fois le matin, trois fois, et trois fois, ainsi que le soir, cela te protégera, cela te suffira contre n'importe quoi. Et dans d'autres hadiths, il est mentionné comment une personne est protégée en lisant Ayatul Kursi le soir. Comment une personne est protégée en lisant les derniers versets de Al-Baqarah, c'est-à-dire où il y a les Rabbana, Rabbana, la dernière page de Surat Al-Baqarah. Ça, c'est extrêmement important. Le musulman se doit de lire ces versets régulièrement, matin et soir, pour être sûr qu'il sera protégé. Parce que de nos jours, mes chers frères, la méchanceté des gens a atteint un summum qui certainement a été rarement atteint. Il y a peut-être parfois c'est des gens de la famille, parfois c'est des proches, parfois c'est des gens qui viennent à la masjid, même ils ne prennent pas conscience de la gravité de ce péché. Il suffit que vous réussissez un peu trop dans votre travail ou autre chose, qu'il va essayer de trouver des moyens pour vous ramener un petit peu à la raison, pour vous mettre un peu les bâtons dans les roues, sans prendre conscience, les pauvres, les masakim, qui sont en train de mettre les pieds dans le chiffre. Donc ça c'était une petite, grande parenthèse plutôt, pour qu'on comprenne que les shayatines obtiennent les informations, ils vont les transmettre aux sorciers, et c'est là la sagesse d'Allah qui laisse les shayatines entendre un petit peu pour éprouver les gens, pour voir qui c'est qui va écouter Allah Azza wa Jal, qui interdit aux musulmans d'aller voir ces personnes, et qui c'est qui va écouter les shayatines. Et une autre petite parenthèse, on sait que le musulman n'a pas le droit de lire, comment on appelle ça, l'horoscope. Il ne faut pas lire un mois de travail, etc., etc. Ça c'est haram, parce que c'est le même principe. C'est lié à l'avenir dans les étoiles par les inspirations de Shaitan. Mais également, il y a autre chose qui est un peu plus répandue, et là ce soir pour ceux qui vont regarder ce que vous savez, à la mi-temps, il y a beaucoup avec qui tu vas te marier, envoie 36-35 par SMS, quand est-ce que tu auras ton premier bébé, envoie 88-89, est-ce que tu es un imbécile, un abruti, envoie ça, il y a tout, d'accord? Ça aussi c'est haram. Maintenant si c'est... On pense juste que c'est pour s'amuser. Mais moi, je suis persuadé que lorsqu'on donne des réponses concrètes, il y a un travail de recherche dessus. Il y a un travail d'astrologue qui consulte, et il y a des shayatines qui donnent des informations. Parce que si tout le monde envoie un SMS quand est-ce que j'aurai mon premier enfant, et à chaque fois il dit c'est le 1er juin 2012, ben, on comprendrait bien que c'est du pipeau, d'accord? Mais le fait que les réponses sont variées, certainement. Donc ça, ce genre de choses, et même certaines applications sur Facebook aussi, sont haram. Du style consulte le grand sorcier ou consulte je ne sais pas qui te dit ton avenir, même si c'est pour jouer, ça il faut éviter. Là, il y a plein d'applications comme ça, d'accord? Bref, ça c'était une petite parenthèse cette fois-ci. Donc on comprend que les shaitans apportent des informations apportées à Nostradamus, mais à n'importe quelle personne qui dise l'avenir. Ça c'est la première chose. Et la deuxième source de Nostradamus, on va finir avec ça à 30 minutes, on en est à 32. La deuxième source essentielle de Nostradamus dans ce qu'il annonce et ce qui va se passer jusqu'à la venue d'Imam Mahdi et de Dajjal, c'est justement les kutub, les livres qu'on appelle les martoutat, les parchemins qui n'ont jamais été publiés et qui ont été volés à deux périodes particulières lors de la bataille des Tatars. Les Tatars, on connaît les Tatars, d'accord? Et pas la sauce tartare, on parle des Tatars. Également lors de la conquête de l'Irak ou la bibliothèque de Bagdad, je ne sais pas s'il existe toujours à cette ville, avait été pillé et donc les livres ont été jetés, etc., etc. Donc, il y en a qui se sont appropriés ces livres et ils ont des informations sur Imam Mahdi, sur Dajjal, ce qui fait qu'ils les ont transmis à une époque au 15e siècle en France ou en Angleterre, je ne sais pas, de ce genre de pays, où on n'avait aucunement connaissance des textes prophétiques. Ce qui fait qu'il a des infos sur Imam Mahdi que nous retrouvons. Donc l'objectif c'est quoi? Qu'on parle de cette personne. C'est pas juste de dire que Nostradamus existe et qu'il a parlé de Imam Mahdi. C'est qu'on comprenne bien que si un jour il arrive que certaines, j'allais dire des prophéties, certaines choses annoncées par cet homme-là se vérifient, il ne faut pas croire qu'il avait un don ou qu'il avait une révélation qui vient de la part d'Allah. Qu'on comprenne bien comment est-ce qu'il avait ces informations par les deux manières qu'on vient d'expliquer. Et toutes les informations, nous les avons déjà dans l'islam. Lorsque le hadith de Abi Zayd al-Ansari, d'Umar ibn Khattab, dit qu'une fois le prophète والسلام, s'était adressé à nous dans un grand discours dont il n'avait pas l'habitude. En général, le prophète faisait des petits discours. Il parlait ma dalla wa qalla wa dal, des paroles très peu, très concise, mais qui voulait dire beaucoup de choses, qu'on appelle le Jawami al-Kalim. Et donc, une fois, le Prophète s'est adressé aux Sahaba, depuis Salat al-Subhi, depuis après le Namaz Fajr, le Prophète est monté sur le Mimbar. Il a exhorté, il a expliqué aux Sahaba certaines choses, jusqu'au Namaz Zohar, depuis Fajr jusqu'à Zohar. Ensuite, thumma nazala fa salla al-Dhuhr. Il est descendu du Mimbar, il a officié la prière de Zohar, thumma sa'id al-Mimbar. Il est remonté sur le Mimbar, il a continué à exhorter les Sahaba jusqu'à Asr. Et pareil jusqu'au Maghrib, hatta ghabat ash-shams, jusqu'au coucher du soleil, fa haddathana bima kana wa bima wa ma huwa ka'in. Et notre façon de l'expliquer sur tout, sur le passé, tout ce qui s'est passé avant, sur le présent et également ce qui va se passer, et dans ce hadith, jusqu'à dans un hadith, hein, an bad il khalq, depuis le début de la création, depuis comment Allah a créé la première des créatures, hatta dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nar manazilahum, jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et les gens de l'enfer entrent en enfer. Ça veut dire que depuis le début de la création jusqu'à la fin, le dernier événement du Akhirat, le prophète avait pris une journée, il avait tout expliqué aux Sahaba. Ça, c'est la science exceptionnelle et unique que le prophète a transmis à sa communauté. Donc, en aucun cas, on a besoin d'aller lire les prophéties de Nostradamus ou d'autres scientifiques ou d'autres thèses mayas, d'autres civilisations égyptiennes ou grecques ou je ne sais quoi, et essayer de tirer des... C'est extrêmement grave de tirer des informations. Il y a beaucoup de gens qui se laissent influencer, qui croient vraiment qu'en 2012, il va se passer telle chose parce que dans telle civilisation, cela a été annoncé. Non, mes chers frères, nous nous suffisons de ce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné. Et c'est ça, le haq, la vérité qui a été transmise par les sahaba. Alors, en aucun cas, donc, nous allons la rechercher de cela, parce que le prophète me dit que celui qui va vers une personne, un sorcier ou un devin, فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالْ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ, et qui croit ce que cette personne dit, cette personne a fait le kufr, elle a renié ce qui a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc si un jour, comme on a dit, on entend des choses qui se réalisent, ça c'est istiraq al-sam', c'est des paroles volées par les shayatin auprès des majlis des malaïka. Maintenant, il y a quand même un petit point qui m'a intrigué hier dans les événements annoncés par Nostradamus. Et ça arrangerait peut-être, ce serait peut-être la pièce manquante au puzzle, si effectivement, arrivera une époque où il y aura un bouleversement climatique. Je ne sais pas si ça tient le coup, la thèse d'alignement des planètes, d'inversement des pôles, si ça tient le coup, hein, ça n'engage que moi, il n'y a pas un alim qui a dit ça n'engage que moi. Et donc, si réellement il y a un changement climatique exceptionnel, peut-être que les deux petits signes de Qiyamah manquants pourront avoir lieu. Et ça, je me rappelle, il y avait un professeur à la Jamia, il nous a dit qu'il y a deux petits signes qui ne sont pas réalisés, et cela ne pourront se réaliser que s'il y a un changement climatique énorme sur la Terre, comme la chute d'un météorite qui changerait le cours, qui changerait toutes les données. Alors maintenant, si vraiment il y a un bouleversement climatique, peut-être que la péninsule arabe redeviendrait verdoyante. Peut-être que la végétation pousserait dans toute la péninsule arabe avec des fleuves qui coulent comme notre prophète alayhi salatu wassalam a annoncé. Et maintenant, peut-être aussi avec, hein, s'il y a un inversement des pôles avec des raz-de-marée, des tsunamis, je ne sais quoi, peut-être que si l'eau part d'un autre endroit, donc des lits de rivières vont être à nu, et peut-être qu'à cette époque, on pourra voir cette fameuse montagne d'or qui doit un jour émerger de l'Euphrate, comme notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé. Et sans cette montagne d'or, et sans la péninsule arabe qui redevient verdoyant avec des fleuves, les grands signes du Qiyamah ne pourront pas avoir. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose à travers ces événements. Alors, rapidement, parce que on a pris assez de temps, il nous restait juste à lire les prophéties, ce que Nostradamus a annoncé, on va faire très court, sur la venue de Imam Mehdi. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y a trois passages. Il y a exactement trois passages, mais qui sont intéressants, mais je n'ai pas trouvé les textes en français, je les ai en arabe, et donc ce n'est, il n'y a pas un réel intérêt. Mais parmi les choses que Nostradamus annonce et qui peuvent être assimilées à la venue de Imam Mehdi, alors c'est dans le 25e quatrain, dans le Qan Nukhami, je ne sais pas, c'est le chapitre 5 apparemment, il parle al-Amir al-Arabi, d'un émir, d'un dirigeant arabe qui viendra à une époque où, alors là c'est plus compliqué parce que je ne maîtrise pas ce genre de vocabulaire, à une époque où le soleil sera aligné à la constellation de Burj al-Assad, la constellation du lion. Alors bon, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Il parle d'un alignement du soleil avec la constellation du lion, et là viendra un empereur, il l'appelle un empereur dans, chez les Arabes qui viendrait et qui ferait énormément de conquêtes. Et il est mention dans ce qu'il annonce, hein, il fait mention dans ses prophéties d'une armée d'un million de personnes. Alors, une armée d'un million, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, une armée composée d'un million de personnes qui combattent en même temps. Mais il faut savoir qu'il y a un hadith dans lequel, alors ça c'est des sujets un peu plus délicats, on marche sur des œufs quand on parle de ça, lorsqu'on parle d'Armageddon, des grandes guerres à la fin des temps, viendra une époque où les musulmans auront en face d'eux une armée, on se taira sur l'identité de ces gens, une armée composée tahta thamani naraya, une armée composée de 80 étendards tahta kulli rayatin 12 alfa, et sous chaque étendard 12 000 combattants. Alors lorsqu'on multiplie 12 000 par 80, là effectivement on arrive à un résultat d'un million. Donc nous on a un hadith qui parle d'une armée d'un million qui lutteront contre les musulmans, et dans les annonces de Nostradamus il mentionne donc une armée d'un million de combattants. Et il précise bien également, c'est un empereur arabe, et nous savons qu'Imam Mehdi sera un arabe. Il ne peut pas être un indien, un pakistanais, un africain, un asiatique. C'est quelqu'un, c'est un arabe, il est min ahlul bayt, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également un autre texte qui se trouve dans un autre quatrain, le numéro, si on retrouve le texte, dans le numéro 55, où il parle là également, dans la péninsule arabe, un événement qui aura lieu dans la péninsule arabe, la venue d'un homme qui a été annoncé dans les textes de Mahomet, fi qawanini Muhammad, dans les textes de Mahomet, c'est-à-dire dans les hadiths. Cela a déjà été annoncé, et à une époque viendra une personne, hein, comme le prophète Mahomet l'avait annoncé aux musulmans. Voilà. Maintenant, le dernier quatrain qui nous intéresse, concernant toujours la venue d'Imam Mehdi, là il parle et là il donne le nom, il dit que, ça c'est magnifique ça, ma qabla al-akhiri min ismi nabi, c'est-à-dire l'avant-dernière lettre, c'est la première lettre du nom de leur prophète. Alors bon, c'est vraiment énigmatique, et donc on parle de Mehdi et de Muhammad, l'avant-dernière lettre du nom Muhammad, c'est le mime, et Imam Mehdi, donc son surnom c'est Mehdi, ça commence par un mime. Donc certaines personnes sont d'avis que voilà, c'est des textes, c'est des fragments certainement récupérés des hadiths dans lesquels il annonce la venue de Imam Mehdi, et il précise à la fin que cette personne redonnera l'honneur à cette communauté après un grand moment, minal khudu, après un long moment d'avilissement, après une longue période où cette communauté sera opprimée. Donc nous avons vu aujourd'hui certains textes de Nostradamus qui annoncent la venue d'Imam Mehdi. L'objectif était de brasser le plus large possible, pour qu'on comprenne quelle est notre conception d'Imam Mehdi, quelle est la conception d'Imam Mehdi de ceux qui ne sont pas sunnites. Est-ce qu'il y a la venue, il y a mention d'Imam Mehdi chez les Yahoud, chez les Nasara, etc., etc. Et maintenant, dans les autres prophéties, dans les annonces de personnes qui sont reconnues de nos jours pour aller à l'avenir, est-ce qu'ils font mention? Et lorsqu'on voit ce genre de nouvelles, comment est-ce qu'on doit les interpréter? Alors on va terminer sur ce couplet justement où il parle d'un peuple opprimé, ce qui nous amène vers le sujet de la prochaine fois, Inch'Allah. On entrera cette fois-ci dans le vif du sujet, les conditions qui doivent être réunies pour la venue d'Imam Mehdi. Et la première des conditions, ce sera un zulm, une oppression comme jamais les musulmans n'ont connu, une oppression exceptionnelle et qui marquera réellement la nécessité de la venue d'Imam Mehdi. Alors qu'Allah Ta'ala nous donne l'istiqama, la constance dans ce qu'on fait, la sincérité, et qu'Allah nous permette de comprendre la profondeur, la richesse de notre religion, de transmettre cette connaissance à nos enfants et à ceux qui ne sont pas là, ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah.